Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir au Collège de France dans le cadre de ce projet BD 2020. Projet qui, comme son nom l'indique, aurait évidemment dû se passer l'année dernière. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ce ne fut pas le cas. Nous avons quand même l'année dernière pu entendre la leçon brillante de Benoît Peters qui ouvrait en quelque sorte le cycle. Et puis 2021 nous a permis, malgré les difficultés, les restrictions, de poursuivre le projet tel qu'il avait été conçu initialement, c'est-à-dire la tenue d'entretiens avec des auteurs de bandes dessinées. Mais pas que, nous allons le voir tout de suite. Nous avons donc déjà organisé l'entretien entre William Marx et Catherine Meurice. Puis ce fut Patrick Boucheron qui s'est entretenu avec Emmanuel Guibert. Et j'ai le grand privilège aujourd'hui, c'est à mon tour de m'entretenir avec Jean-Marc Rochette. Bonjour, bonsoir Jean-Marc Rochette, bienvenue au Collège de France.
Merci beaucoup, bonsoir,
c'est un grand honneur. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir et merci aussi d'avoir quitté votre retraite montagnarde pour venir nous rejoindre ce soir. C'est donc vraiment un très, très grand plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette série d'entretiens. Alors, nous avons convenu, Jean-Marc Rochette et moi, que je ne le présenterai pas très longuement de manière préliminaire, dans la mesure où son œuvre parle pour lui, et c'est évidemment essentiellement de son œuvre que nous allons parler ce soir. C'est elle, donc, par votre intermédiaire, qui va prendre la parole. Je pense que c'est le plus bel hommage que nous pouvons rendre à ce travail. Il est tout de même un point que je voudrais soulever d'emblée et que notre public va découvrir progressivement. Vous êtes bien sûr un auteur de BD, mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes aussi un peintre. Et même si le programme dans lequel nous nous insérons s'appelle BD 2020, il m'a semblé important aussi d'ouvrir cet entretien sur cet autre aspect de votre travail qu'est la peinture. Et donc, nous y viendrons parce que, fondamentalement, ce ne sont pas deux métiers différents et ils sont profondément entrelacés. Donc, je pense que ça apparaîtra aussi très vite. Et puis, il y a aussi, vous verrez, une partie de cette œuvre de Jean-Marc Rochette qui légitime en quelque sorte, même de façon très modeste, que ce soit moi qui aujourd'hui soit l'interlocutrice dans le cadre de cet entretien. Mais ça, je vous laisse la surprise pour dans un instant. Bien, je pense qu'il est... Voilà. Il est important de plonger d'emblée dans l'aventure hors norme que fut le transpersonnage, puisque la BD, en plus, a attiré l'attention du réalisateur Bong Joon-ho, qui a eu la Palme d'Or pour Le Parasite en 2020 et qui a fait donc de cette bande dessinée une série sur Netflix. Mais ce n'est pas la série que nous allons évoquer, ce n'est pas l'objet, mais bien les albums. Les albums dont la parution s'étend en fait sur 25 ans entre le début des années 80 et l'année 2015 quand paraît le volume Terminus qui, comme son nom l'indique, clôt la série. Et donc voilà, je vous laisse commenter cette image impressionnante que vous avez aussi sur l'écran ici. Ce sera peut-être plus simple.
Donc ça, c'est la figure emblématique du transpersonnage. C'est une histoire assez étrange parce que Jacques Lob, donc le scénariste, avait commencé cette histoire avec un autre dessinateur qui s'appelait Alexis, qui est malheureusement décédé à 33 ans, je crois. Et puis après, il a recherché les dessinateurs parmi surtout, il voulait des jeunes plutôt. Donc, il y a eu Skeuten, il y a eu Rouge, il y a eu Loisel. Et puis, finalement, il s'est décidé pour un jeune dessinateur qui était moi, vraiment à cause de cette image-là. C'est-à-dire, je crois que ce qu'il décidait, c'était la forme du train. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop ce qu'il voulait, mais il voulait un espèce de train vivant, inquiétant et... Et donc, il m'a demandé de faire des essais de train. Et en fait, je n'ai quasiment pas cherché la forme du train. J'ai tout de suite fait cette tête, Après le coup, je me suis aperçu que ça ressemblait à un masque spartiate.
Un casque, oui.
Un casque. Oui, un casque spartiate. Et c'est là-dessus qu'il s'est décidé. Et donc, pour moi, c'était un honneur, bien sûr, mais surtout, ça a été un gros défi, parce que moi, j'étais un dessinateur underground à l'époque. On était juste à la fin des années 70, début 80. J'avais fait un personnage qui s'appelait Edmond le Cochon, qui était très proche de Fritz le Cat, de Crumb, tout ça. Et donc, quand il a choisi mon travail, ça a été j'ai l'impression que j'étais quelqu'un qu'on poussait dans la piscine pour qu'il apprenne à nager. Quoi.
Tout à fait. Et donc, l'histoire du transpersonnage, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, si je lis les encadrés que vous avez à l'écran, parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnage aux mille et un wagons, c'est le dernier bastion de la civilisation. Donc cette histoire, c'est assez glaçant parce que c'est une catastrophe climatique, fondamentalement, au départ. La Terre est entièrement gelée, on a donc une extinction de l'humanité, sauf ceux qui sont dans ce train. Et donc, voilà, comment dessine-t-on la catastrophe climatique et cette espèce de fin du monde ?
Bon, la première page, ça a été donc... La première page, c'est surtout... En fait, le texte et l'image, c'est une chose assez curieuse. Par exemple, ici, il y a un texte qui est très fort. C'est une ritournelle qui revient et qui, chez les lecteurs, pratiquement, ça a marqué. Le transpersonnage, c'est cette ritournelle-là, de cette page-là et cette image-là, quoi. Après, le gros défi d'une histoire comme ça, c'était de jamais sortir du train. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 120 pages qui, à l'époque, c'était une bande dessinée longue, et maintenant, c'est rien, mais pour l'époque. Et rester dans ce train, qui, d'ailleurs, Bong Joon-ho a eu le même problème au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire comment dynamiser une histoire qui en fait, est très statique. Mmh. C'est juste une histoire d'un personnage qui remonte d'un train. Quoi.
Et pourtant, le train finit par s'arrêter. Alors, pas dans la série, mais en tout cas... Le train finit par s'arrêter, un autre cauchemar commence dans un ancien parc d'attractions dont la mascotte est une souris, j'imagine que ce n'est pas totalement un hasard, et qui s'est transformé en une sorte de camp dont l'énergie est délivrée par une centrale nucléaire, dont les radiations assorties d'expériences sur le génome humain aboutissent à faire naître des enfants difformes. Et donc vous avez ce personnage que je vais mettre tout de suite en lien avec cela, parce que là, je pense qu'il y a...
Voilà, c'est-à-dire qu'on
entre dans votre pratique.
Dans ma pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donc une histoire que j'ai écrite avec un scénariste qui s'appelle Bokeh, et on avait cette idée d'une scène étrange que vous avez vue avant, où une femme avec ce masque un peu à la Malevitch, et d'un seul coup, je me suis souvenu de cet artiste, Wolfgang Leib, qui fait des œuvres avec du pollen. Et je pensais que ça serait une très belle scène pour la bande dessinée, que cette espèce de transe dionysiaque se passe dans ce jaune magnifique. Et c'est là où il y a le rapport avec la peinture ou l'art contemporain dans mon travail se mêle un peu. Et donc là, c'est un tableau que j'ai fait pour la Galerie Mayenne, où je me suis amusé effectivement à donner ce rendu. Ce qui m'intéressait là-dedans, surtout, c'est le côté suprématisme de la tête.
De la tête. Voilà. Mais évidemment, ça aboutit aussi à d'autres planches, enfin à des planches justement de Terminus, où vous avez travaillé cette idée de l'enfer et de la malformation des enfants. À l'origine,
c'est-à-dire que mon idée, c'était qu'il y a un enfer horizontal avec le transpersonnage, éternel, en fait, c'est une espèce de chose qui tourne et qui ne s'arrête jamais, et là, je voulais un enfer vertical. D'accord. Et je voulais que le fond de ce vertical, de ce puits, en fait, ça soit ce moment où les femmes n'ont plus les enfants dans le ventre. Quoi. Donc on leur sort les enfants et on en fait un transhumanisme complet et absolu. Et donc à partir de ce moment d'enfer complet, les personnages, par la suite, fuient le lieu, ce lieu. Et ça, c'est une des pages, à mon avis, enfin, c'est la scène, d'ailleurs les rouges, c'est une des scènes les plus difficiles de ce livre. D'ailleurs, ça reste très difficile, même pour moi, de le regarder. Quoi. Je trouve que c'est vraiment une espèce d'avant-goût de l'enfer. Quoi.
Et vous m'avez envoyé, à l'occasion de nos échanges préliminaires, aussi cette image qui n'est pas moins difficile.
Alors, oui,
pourquoi me l'avez-vous envoyé ?
Je vous l'ai envoyé parce que dans l'histoire avant, il y a une scène où on voit des enfants donc, mal formés par des radiations atomiques. Et qui sont des grands artistes, en fait. L'intérêt, c'était que je m'étais dit, c'est des grands écrivains, des grands poètes, des grands... Voilà. Mais je ne voulais pas qu'on tombe dans la caricature des déformations qu'on a en bande dessinée, qui sont à la limite du comique, ou de l'ironique, et je détestais ça. Et donc, j'ai été voir les photos d'un photographe qui s'appelle Paul Fusco, qui a fait les photos des enfants de Tchernobyl. Et quand je suis tombé sur ces images, qui sont terribles, qui sont scandaleuses... Ça m'a permis de faire les images que je voulais et j'ai dû faire des sculptures, comme je fais souvent, pour tourner autour, notamment celle-ci. Et puis finalement, j'ai contacté la mairie de Grenoble et cette sculpture, donc, qui est tirée de Terminus, est devenue une sculpture qu'on peut voir dans Grenoble.
D'accord.
Et donc, c'est un espèce d'hommage à des victimes... qu'on voit pas ces images là ici dans les dépôts on voit pas, mais il y a quelques pages où on les voit quoi. Et elle, c'est vraiment la représentation de ces pauvres malheureux.
Voilà. D'accord. Donc transpersonnage, aventure qui finit par une dystopie assez terrible, et on parle en fait du personnage tout à la fin de cet album qui s'appelle Elle froide. Alors je n'avais pas besoin initialement de vous présenter biographiquement, et puis de toute façon, on ne voulait pas aller dans cette direction-là, mais Elle froide, c'est un album biographique. Un album biographique, et ce qui m'a amusée en préparant cet entretien, c'est de me rendre compte qu'à la fin d'Elle froide, vous parlez du transpersonnage qui va arriver, et en même temps, vous dites à propos de la face nord d'Elle froide, je ne la ferai jamais. Comme s'il y avait une sorte de passage de témoin entre deux voies jusque-là parallèles, la montagne et le désir de devenir guide, et puis le dessin, l'auteur de BD, le peintre. Et donc, il y a une sorte de passage de témoin à la fin du volume que je trouvais très, très intéressante. Mais dans le transpersonnage, fondamentalement, on a l'impression que la montagne n'est pas là. Et pourtant, vous nous dites qu'elle y est.
On la voit au loin,
toujours.
On la voit au loin, elle est toujours en arrière-plan. En fait, on a l'impression que le transpersonnage tourne autour d'un massif. Mais ce qui m'a étonné, d'ailleurs, dans la reprise, que ce soit de Bong Joon-ho ou que ce soit dans celle de Netflix, c'est qu'eux, ils rentrent dans la montagne. Et alors que quand on fait le tour de la Terre, on peut passer en Afrique, il y a beaucoup plus de plaines. Beaucoup plus de plaines que de montagnes. Et le transpersonnage, que ce soit en Corée ou aux États-Unis, reste une histoire de montagnard, quoi, avec des avalanches et tout ça. Quoi.
Mais bon, Elle froide, c'est donc album biographique, et donc ça permet d'entrer dans un moment fondateur que je vous laisse commenter.
Voilà, donc ça, c'est moi, enfant, au musée de Grenoble. Et au musée de Grenoble, il y a une œuvre qui est très connue, c'est le bœuf écorché de Soutine. Alors, je ne sais pas pourquoi cette œuvre m'a marqué à ce point-là. Je pense parce qu'elle a un côté enfantin, quand même. Il y a quelque chose il y a quelque chose où on prend de la matière et on la... Par exemple, si vous voyez le bœuf écorché de Rembrandt, il est très impressionnant. Un enfant n'a pas l'impression qu'il pourra le peindre. Hein. Ou un Zurbaran, parce qu'il y a des très beaux Zurbarans à Grenoble. Mais le souci, il y avait un côté un peu... Un enfant un peu... Un peu perturbé, peut-être, mais il y a un objet un peu comme ça. Et donc, j'ai été fasciné, et c'est vraiment fondateur. Cette peinture reste pour moi une espèce de peinture que j'ai tout le temps là, comme un espèce de regard.
Et vous l'exprimez, parce que là, évidemment, c'est l'enfant, mais le jeune adulte retourne au musée.
Oui, alors ça, c'est une grosse exposition qu'il y avait eu à l'Orangerie. Je crois qu'on était en 64. Comme ça, 72, 73, je ne sais pas. Et j'étais monté la première fois à Paris pour voir cette exposition. Mais à l'époque, j'étais vraiment un grimpeur. D'ailleurs, on me voit, j'avais mon sac encore. Et j'étais surtout un alpiniste. Parce que, et j'ai été voir, c'était à l'orangerie. Et je suis retombé sur le soutien de Grenoble. Quoi. Donc c'est une espèce de chose qui ne me quitte jamais. Et donc c'est ce passage-là où justement je me vois en train de grimper dans le tableau. Parce que ce qui m'intéressait dans la peinture, déjà tout de suite, c'était la matière, en fait. C'était le côté tactile, en fait, de la peinture. Puisque la peinture a été quand même remplacée par la photo, par le cinéma. Enfin, il y a beaucoup, à l'époque, il n'y avait qu'une image, c'était la peinture, mais maintenant, il y en a plein. Par contre, elle reste unique dans sa texture.
Matérialité.
Voilà, dans sa matérialité. C'est ce que j'ai voulu exprimer là, dans cette image-là.
Oui, là, une sorte de réunion, comme à la fin du volume, justement, quand il y a ce passage de témoin. Là, on a vraiment les deux dimensions qui sont synthétisées dans l'image. Ouais. Et puis, voilà, autre, avec le rappel de la couverture du volume.
Donc, oui, alors là, c'est un moment, enfin, pour les, s'il y a quelques grimpeurs ici, c'est la face nord-ouest du râteau que j'ai fait en solo, je devais avoir 17 ans. Et donc le solo, c'est-à-dire qu'on grimpe sans corde, quoi. On part comme ça et on grimpe. Ouais. Donc c'était la difficulté dans la bande dessinée, c'est de montrer à un public qui ne connaît pas ce que c'est qu'une voie en face nord. Et j'ai eu la chance, comme c'est écrit ici, d'arriver au sommet avant le lever du soleil. Et donc c'est une espèce de moment particulièrement gracieux que j'ai essayé de rendre ici.
Oui, parce que ce n'est pas, vous n'écrivez pas « le ciel prend feu », vous écrivez « j'ai pris feu ».
Oui, il y a une...
C'est la naissance du monde.
Oui, il y a une espèce de catharsis, enfin, il y a une chose qui est très forte qui se passe là. Pour moi, ça a été... Et bien après, je descends, évidemment, parce que c'est ça, là, le pays, on est en haut, puis après on redescend. Et quand on redescend, on est à nouveau dans la... Et pour l'anecdote, c'est que j'ai croisé des guides à la descente sur l'arête, et je me suis pris une rousse terrible, parce que j'étais un très jeune homme, et le guide, il avait raison, il m'a dit « mais jamais on fait ça », et pour mille raisons que je ne vais pas expliquer, parce que ce serait dangereux. Voilà.
Et c'est vrai que la montagne reste dangereuse, et dans cette biographie dessinée, vous évoquez ce moment terrible.
Voilà, donc ici, je me suis mis à faire du solo, c'est la date, c'était en 76, parce qu'en 76, il y a eu une année d'une très grande sécheresse. Mmh. Et je faisais du solo, j'ai posé un rappel, et je ne sais pas d'où elle est arrivée, j'ai pris une pierre en pleine tête. Quoi. Et donc là, j'aurais pu, pour point de vue technique, pour parler de la bande dessinée, on peut montrer ça d'une manière un peu plus violente, ou on peut le faire d'une manière assez lointaine, ce que j'ai fait, quoi. Et ça, donc voilà, ça c'est le tableau que j'ai fait quelques années après, le couloir, parce que ça peut pas avoir cette histoire, mais voilà. Si vous voulez, je peux vous dire ce que ça représente. En fait, c'est le couloir long en face nord d'Aile Froide où j'ai eu un accident et ce qu'on voit, la structure rouge en haut, c'est la blessure de mon compagnon de cordée. Et donc j'ai fait une espèce d'amalgame entre montagne et les deux chairs, en fait.
On le voit bien, on le comprend bien, en tout cas quand on voit la juxtaposition des deux œuvres.
Voilà.
Quand je vous disais tout à l'heure que c'était difficile de faire le partage entre le travail de l'auteur de BD et celui du peintre. Et puis la suite de l'histoire, c'est quand même une blessure extrêmement grave.
Oui, oui, enfin oui, bien sûr.
Une hospitalisation longue.
Voilà.
Et à ce moment-là, vous décidez d'arrêter la montagne. C'est à ce moment-là que vous...
C'est-à-dire que j'ai fait une grosse saison derrière. J'étais un petit peu... Le fait d'avoir pris cette blessure au visage, ça m'avait... Bon, il y a aussi... Pour moi, c'est fondateur, parce que quand on a 20 ans et qu'on a... Dans les fesses, on n'a plus de visage, enfin, un visage très, très, très esquinté, on passe dans un autre côté, quoi. Et donc j'ai fait encore une grosse saison et puis après j'ai eu peur, en fait. Mon corps il voulait plus, quoi. C'est-à-dire il voulait bien, mais un peu, mais plus à ce niveau. Et j'ai commencé à m'intéresser plus à la bande dessinée. Alors pour l'anecdote, j'ai rencontré un dessinateur qui s'appelait Francis Mass à Grenoble, qui était un dessinateur assez connu à l'époque. Et puis quand je suis allé aux États-Unis parce que je voulais faire le Yosemite, Yosemite, je sais pas comment on prononce ça. Je suis allé à San Francisco, Et il y a, c'était le plein boom de la bande dessinée underground. Et j'ai découvert, alors ici vous avez le premier Zap Comics de Crumb. Il y a Spine Rodriguez, il y a Corben, qui étaient des espèces de personnages qui ont vraiment irrigué la bande dessinée mondiale. Et j'ai décidé que ma voix était là, d'où l'espèce de symbole où je laisse la corde sur le comptoir de ces qui sont d'ailleurs ces deux-là et ont existé. C'était les deux vendeurs de comics américains des années 76-77, quoi, que j'ai retrouvé.
C'était quelque peu interloqué.
Un peu interloqué, ouais, ils n'ont pas trop compris. Ouais.
Et donc, parce qu'il faut quand même qu'on lui fasse une petite place à ce cher Edmond le cochon.
Alors voilà, donc
expliquez-nous la genèse de.
Alors ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré en 78, donc je crois que c'était en 78, parce qu'il y a eu aussi Bocquet qui m'a écrit à l'écriture, j'étais dans une position assez difficile socialement, c'est-à-dire que j'avais quitté les études et en fait je. Et est apparu cette espèce de frère de Moïse, hein, qui était Edmond le Cochon, un type qui se sortait de tout. Et j'ai dessiné ce personnage, qui est une des rares BD underground françaises, véritablement. Et il a eu du succès immédiatement. C'est-à-dire, enfin, un succès relatif, hein, mais quand même, il publie un peu de partout. Notamment, Jacques Tardy m'a dit qu'il l'avait vu en pirate à l'époque de Pinochet.
Ah.
Parce qu'il avait été publié dans Elvi Bora, un journal catalan underground, et il avait été mis sous le manteau. Donc c'est un personnage pour qui j'ai beaucoup de tendresse, en fait.
C'est très joli, la réflexion. Là. C'est toi mon ticket de sortie.
Voilà, c'est ça. C'est toi qui vas me sortir de ça. Et de fait, c'est grâce à Edmond le Cochon, personnage ignoble. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un espèce de compromis entre Fritz the Cat et Mr. Snoy de Crumb. Donc, ce qu'on fait de pire, et pourtant, il m'a bien aidé.
Donc, ça, c'était évidemment avant le transpersonnage, hein, qui est venu.
Voilà.
Voilà. On ne suit pas un ordre totalement chronologique, mais c'est assumé comme tel. Et donc, à la fin de ce volume, Elle froide, il y a alors l'annonce, effectivement, du transpersonnage. Mais, alors, on va sauter les années, parce que vous m'avez fait le plaisir de me soumettre l'album sur lequel vous êtes en train de travailler.
Voilà, exactement.
Et donc là, je trouve très intéressant d'entrer dans l'atelier. Alors évidemment, les planches qu'on va vous présenter sont déjà très, très, très achevées, mais j'ai vu par ailleurs le storyboard, et on est dans l'effervescence de la création. Et donc, parlez-nous un peu de cette dernière reine. Donc c'est le nom de l'album en question, la dernière reine sur laquelle vous êtes en train de travailler.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour le scénario, je voulais parler du dernier ours tué sur le plateau du Vercors, parce que le plateau du Vercors est un endroit où l'ours a régné pendant 400 000 ans, je ne sais pas. Et en 1898, le dernier ours s'est fait tuer, quoi. Et c'est une chose qui est toujours restée en moi, quoi. Et à partir de ça, je dis, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Donc je dis, un enfant du plateau voit la dernière ours qu'on traîne comme un cadavre. Et cet enfant est choqué par ça. Et donc, naturellement, je me suis dit, puisqu'il était enfant en 1898, il va faire la guerre de 14-18. Donc ça, j'ai simplement suivi une logique narrative.
C'est ça, une logique.
Et donc s'il fait la guerre en 14-18, on peut mourir, on peut avoir de la chance, on peut aussi être très gravement blessé, ce qui quand même chez moi est une blessure au visage et quelque chose qui revient assez souvent. Et, ouais. Et donc ce personnage qui a vu la dernière reine, la dernière ours mourir, se fait très gravement blessé.
Donc ça, c'est évidemment le...
Ben ça, c'est,
retour
c'est...
en arrière.
Voilà, c'est-à-dire que je raconte l'histoire de l'ours. Ce qu'on a vu avant, c'est l'ours quand il n'y a pas d'homme. Donc la scène, en fait, on voit une ours femelle qui avait deux oursons. Et là, c'est la fin de la scène, elle n'a plus qu'un ourson parce que dans la nuit, elle s'est fait attaquer par des loups.
D'accord.
Donc c'est simplement pour montrer la vie à l'époque. Et ça, c'est l'arrivée des hommes sur le plateau et donc ils chassent l'ours de sa caverne pour prendre sa place. Alors c'est un peu compliqué, l'histoire est un peu dense, mais ça c'est ça, c'est cette scène-là où les hommes arrivent et ils sont en conflit parce qu'ils sont au même niveau hiérarchique, voire...
Oui, ils recherchent les mêmes espaces.
Ils recherchent les mêmes espaces, le même lieu, la même nourriture, et ils ont été dominés par l'ours et c'est le moment où ils le dominent.
Et puis on revient...
Alors, donc, on revient à notre personnage qui, effectivement, est une gueule cassée, c'est-à-dire qu'il a le visage complètement arraché et on lui dit qu'à Paris, une sculptrice, quelqu'un refait les visages, ce qui est vrai, d'ailleurs, parce que je cherchais un personnage féminin fort. Donc, il y a une sculptrice qui s'appelle Jeanne Poupelet, qui est une sculptrice animalière, ce qui tombait bien, parce que ça me permettait de faire un lien. Et qui était surtout une forme de sainte artiste qui refaisait les visages des gueules cassées. Donc, c'est le moment où il est en attente. Il est en attente, et là, il va chez elle, il la voit, donc il rentre dans son atelier, et là, on voit les têtes des plâtres, en fait, qu'elle a fait de toutes les gueules cassées. Et donc, la scène, là, ça saute une case, mais il y a deux pages. Elle va lui prendre la fameuse scène où elle lui prend son empreinte de visage. Visage qu'on ne verra jamais dans tout l'album, d'ailleurs. Et ça, donc, on retombe sur votre spécialité. Hein. Et elle lui demande s'il a des photos de lui. Et il dit non, j'ai tout jeté. Et donc, elle lui dit, vous inquiétez pas, c'est assez courant qu'on jette des photos de son ancien visage. Elle lui propose des acteurs de l'époque. Et finalement, il dit que non, il dit qu'il veut avoir ce visage-là, quoi. Il veut être un Kouros. Il veut être un. Donc c'est une scène assez étonnante.
Assez étonnante, oui, tout à fait. Tout à fait.
Et alors après, ce personnage, je ne sais pas si on le voit, mais il devient un personnage assez.
On n'avait pas choisi cette.
Voilà.
Mais bon, il a ce masque, effectivement. Il devient le visage du Kouros.
Il devient le Kouros, il a les cheveux comme. Il a les cheveux longs. Donc vous voyez le Kouros tout le temps.
Oui, là, je suis un peu à la maison.
Ouais.
Tout à fait. Mais ce n'est pas à ça que je faisais référence tout à l'heure.
D'accord.
La surprise, elle arrive après. Donc voilà, c'est. Et justement, ce qui est quand même très impressionnant quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, comme j'ai été amenée à le faire de façon un petit peu plus systématique, je vais dire, pour préparer cet entretien, c'est cette récurrence justement de la blessure, de la difformité. Vous avez, sans vouloir faire de la psychologie à bon marché, mais... La dystopie, par exemple, de Terminus, est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans le même registre ou bien ce sont deux mondes totalement différents ?
Non, je me répète, c'est Boltanski, avec qui je connaissais un peu, il disait qu'on dit toujours la même chose. Lui, par exemple, il parlait toujours de ce traumatisme. Et moi, je pense qu'il y a un traumatisme initial qui est évidemment sur la blessure, mais qui serait peut-être autre et... Je ne suis pas d'un optimisme absolu, quand même, il faut bien avouer, voilà.
je me
soigne, mais malgré tout, ça revient toujours.
Mais bon, ce n'est peut-être pas l'optimisme absolu qui fait les plus belles histoires.
Ouais.
Donc, encore une planche de la dernière reine. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'album en train de se faire. Hein. Là, les phylactères sont vides. Mais voilà, ce face-à-face entre la sculptrice et...
Voilà.
L'artiste et l'ours.
C'est-à-dire que là, je raconte un peu l'histoire, mais comme l'histoire est compliquée,
Il faudrait quand même la lire.
Mais c'est le moment où le Kouros, on va l'appeler comme ça, hein, Eugène lui montre un secret. En fait, le secret, c'est qu'il y a une grotte dans le Vercors où il y a un ours sculpté qui date de cette époque-là. Et d'ailleurs, elle lui dit, mais c'est un miracle, c'est un trésor, il n'y a pas d'œuvre de cette taille-là, personne si ancienne, si grosse, si impressionnante. Et il lui dit, oui, mais personne ne le saura jamais. Donc c'est le moment où elle est en face de cette œuvre unique, ce trésor d'humanité, et elle s'en imprègne, quoi. Alors là, il y a dans la bande dessinée, il y a l'écriture, et après il y a la mise en scène, et après le dessin. C'est quand même un art qui est assez...
Expliquez peut-être un peu, puisque là, on voit bien qu'on est dans une phase... spécifique de la démarche. Peut-être éclairez-nous sur ce processus, parce que nous sommes, en tant que lecteurs de bande dessinée, nous avons les produits finis.
Voilà, donc on écrit. Alors quand on peut prendre avec un scénariste, ou là dans ce cas-là je suis seul, donc on écrit, on fait un storyboard, et le storyboard, il y a encore tous les possibles, c'est que de l'énergie. Donc on peut imaginer son chef-d'œuvre. On est toujours déçu, mais là c'est en gestation. Mais quand on arrive sur la planche, là il faut faire des portraits, il faut savoir. Il y a la mise en scène, c'est-à-dire, je pense que dans le storyboard c'était moins net. Il y a les positions des corps, il y a là on devient acteur, on devient éclairagiste aussi, puisque là je suis en train de faire la couleur, donc on voit bien qu'il y a un travail d'éclairage. Et je suis surpris quand j'arrive sur l'original, on va dire, comme les idées me viennent par moments. C'est des choses que je n'avais pas pensé, et le scénario impose certains plans, certains face-à-face, une certaine rythmique. Et même là, par exemple, dans ce cas-là, le grand plan, le grand scope en bas, au milieu, là, il est vraiment nécessaire, quoi. Il est nécessaire par rapport à la poésie de la page, quoi.
Ce sont des choses qui s'imposent à vous au moment
Ça s'impose un peu comme un scénario, en fait. Un bon scénario, pratiquement, quand quelque chose grince, on le voit tout de suite. Ça ne va pas.
Il y a la. Et vous êtes toujours le coloriste de vos.
Non. Alors j'ai fait beaucoup de couleurs. Dans le Loup, j'avais pris une coloriste. Et là, j'ai décidé de tout faire, quoi. Donc la couleur, alors là, c'est une alchimie. C'est-à-dire qu'il faut. Par exemple, il y a beaucoup de matière et tout ça. C'est une espèce de cuisine interne.
Oui, mais...
Qui fait qu'on. C'est un peu de la peinture, là, pour le coup. C'est de la peinture, parce qu'il faut que, comme on dit, il faut fastiquer la matière. Et là, malgré tout, on ne voit pas, mais il y a quand même tout un travail de. Je fais des rendus, d'aquarelles, je fais. Pour que ça ne soit pas trop plat, en fait, pas trop plat, mais pas trop pictural non plus. Enfin bon, c'est tout un. Mais il faut une petite alchimie, il faut mettre le curseur exactement où il faut.
Dans son style. Justement, à propos d'aquarelle. Et là, évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Là, je me suis retrouvée à la maison. Il y a quelques années, vous avez illustré une très belle traduction de l'Odyssée. Et donc, voilà, c'était l'occasion. Nous sortons un tout petit peu de la BD, mais c'est quand même consubstantiel à votre travail. Et vous venez d'en parler pour la partie couleur de vos bandes dessinées, où là... L'aquarelle peut prendre sa place. Or, ici, dans l'illustration de l'Odyssée, vous avez fait le choix de l'aquarelle. Et donc, pour montrer un peu de quoi il retourne, voilà par exemple une extraordinaire représentation de l'Athéna. L'Athéna aux yeux. Alors, la traduction reçue, c'est l'Athéna aux yeux pères, mais bon, c'est une manière ancienne de parler qui ne dit plus nécessairement grand-chose aujourd'hui. C'est la glaucopie, c'est-à-dire qu'elle a les yeux, c'est quasiment intraduisible en français, c'est bleu-vert en fait. Et là, vous avez mis l'accent sur le bleu, et vraiment avec cette mise en évidence des yeux qui est absolument, absolument magnifique. Quel a été le déclencheur de tous ces différents dessins qu'on va passer en revue, ces différentes aquarelles? C'est le texte qui a généré l'image? Comment avez-vous travaillé? Là aussi, dans l'atelier, les choses se sont passées?
Dans l'atelier, j'ai une espèce d'écoute, lecture flottante, en fait, comme un psychanalyste écoute son patient, sa patiente. Donc je lis sans trop... je laisse venir les images. Et d'un seul coup, il y a une image qui me vient, alors je souligne. Hein, bon, là, comme tout le monde, enfin, les gens connaissent les yeux pères, donc c'est arrivé. Et puis, c'est le début du livre.
Oui,
et donc là, je voulais que ça soit... Bon, j'aime beaucoup la peinture du début du XXe, hein, donc avec ces espèces de forces qu'il y avait dans la gestuelle. Et donc ça a donné le tempo. Une fois que j'ai fait ce premier dessin, parce que c'est le premier dessin du livre...
D'accord. C'est celui aussi que vous avez fait en premier.
En premier.
D'accord.
C'est le premier dessin. Et une fois qu'on a fait ça, tout le reste suit.
D'accord.
C'est plus possible de retourner vers le péplum. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire, Et effectivement, on n'est pas dans le péplum. Hein. Voilà la métamorphose des compagnons d'Ulysse en cochon chez Circé. Agamemnon. Alors là aussi, il y a...
Ben, Agamemnon, vous connaissez, c'est le fameux masque d'or. Donc c'est un masque assez connu. Parce qu'il n'y a pas de photos d'Agamemnon. Donc,
Mais je dois dire qu'on en a peu.
Oui, on en a peu. Ouais. Et donc, il y a juste, j'imagine, il n'y a que cette tête-là qui est connue, non, il y en a...
Enfin, disons, c'est ce qu'on a appelé le masque d'Agamemnon, mais c'est une appellation que Schliemann... En fait, quand Schliemann a fouillé l'acropole de Mycène et qu'il a mis au jour le contenu des tombes, il y a ce masque d'or qui est venu au jour et les archéologues l'ont appelé le masque d'Agamemnon, mais... La référence, elle était à l'Iliade, voilà.
Voilà, bon. Voilà. Bon, bah, bref, donc c'est Agamemnon. Et comme c'est Agamemnon qui sort des enfers, j'avais cette idée de faire comme une tête de mort, en fait. Hein. C'est à la fois le masque de...
Et c'est un masque funéraire, donc ça tombe bien.
Ça tombe bien, voilà. Et ses yeux noirs... et donc là, on est dans une gestuelle de peintre, je pense, parce que... Il n'y a pas de reprise là-dessus. C'est-à-dire que c'est où votre dessin fonctionne ou il ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, vous ne revenez pas. Vous voyez bien les taches qui sont dans les yeux. Ouais. Par contre, quand ça fonctionne, y a l'inconscient a quand même s'est exprimé. Et
c'est aussi très frappant avec cette image que vous avez intitulée Ulysse...
Ensanglanté, oui.
Ensanglanté, donc après le massacre. La mise à mort des voilà. prétendants. Là aussi, j'imagine qu'on ne reprend pas ce genre d'image.
Absolument. Ben ça, c'est... D'ailleurs, on les fait, c'est une forme de transe, hein. Transe statique, parce que... mais il faut vraiment que les yeux, le nez, la barbe, et puis c'est une image qui frise à l'abstraction. C'est-à-dire que si on voit pas le profil d'Ulysse, si on dit pas que c'est le visage d'Ulysse. Ensanglanté, peut-être qu'il y a des gens qui voient une abstraction
qui voit autre
pure.
Chose.
Quoi.
Et justement, l'abstraction, elle arrive à la fin.
Voilà, alors là, ça a été le grand
problème. Expliquez-nous.
Le grand problème du livre, c'est que pour ceux qui ont lu ou qui se souviennent de l'Odyssée, la dernière phrase, c'est que Athéna hurle. Parce que à Ithaque, la guerre va reprendre. C'est-à-dire, le père, ils vont. Et à nouveau, la violence va s'embraser sur l'île. Et donc, Athéna hurle et arrête la violence. Je crois que c'est...
À peu près. Crie.
Elle crie, voilà. Donc, si vous faites Athéna dans l'air qui crie, vous êtes dans un rapport Saint-Sulpicien à l'image. Et alors, j'ai failli ne jamais faire cette image. Je me suis dit, mais c'est quand même... C'est refuser l'obstacle. Et donc, finalement, j'ai fait cette image. C'est le ciel, en fait, c'est un nuage, et il crie. Il crie dans la mesure où il devient étrange. Voilà. Donc, pour moi, j'étais content de l'avoir fait, parce que je clôt le livre sur une étrangeté.
Oui, mais en fait, moi qui travaille sur les dieux grecs, puisque nous sommes en dialogue, je vais entrer dans mon propre atelier, c'est... Quand on passe de la version anthropomorphe de la déesse au tout début du livre à cela, à cette forme, c'est une manière, mais je ne sais pas si vous l'avez conçue comme ça, comme telle, mais une manière d'exprimer combien finalement les Grecs pouvaient représenter leurs dieux ou les figurer de façon très diverse, à la fois sur un plan anthropomorphe, mais ce genre de choses, ça convient très bien.
Aussi.
On sent le dieu qui est là. Tout simplement. Il n'a pas besoin nécessairement d'avoir une forme ni humaine, ni animale, ni végétale. Ça peut être ça. Et donc, votre travail d'aquarelliste a rendu compte des morphismes différents des dieux grecs.
Merci.
Donc, voilà. Non, je vous assure, c'est tout à fait ça. Et en plus, les couleurs, évidemment, renvoient aussi à la glaucopis. Avec ce bleu, gris, vert, c'est exactement
la couleur. Là, on y arrive plus, là, sur le glauque.
Ah oui, on y arrive. Enfin, le glauque, malheureusement, quand on dit glauque, c'est oui. tellement chargé en français que c'est un petit peu difficile, mais le glaucos,
en fait, c'est ça. C'est vraiment, on ne sait pas trop si c'est vert ou si c'est vert,
c'est
gris.
C'est bleu, c'est vert, c'est gris. C'est, ouais. Eh bien, le glaucos, c'est ça. Donc, les yeux pères d'Athéna, c'est ça.
Ah, alors là...
Voilà. Vous ne regrettez pas d'être venu.
Non, je ne regrette pas d'être venu. Ouais.
Très bien, mais poursuivons. Donc toujours dans le registre de l'aquarelle, là, on quitte l'Odyssée. Donc, vous avez un travail d'aquarelliste. On retrouve évidemment vos thématiques, je ne vais pas dire privilégiées, parce qu'elles ne sont pas les seules, mais en tout cas, la montagne reste extrêmement présente dans votre travail d'aquarelliste, et puis on le voit ici aussi. Mais à côté de ce travail d'aquarelliste, il y a aussi la matière. Voilà, là on retrouve ce dont vous parliez tout à l'heure avec Soutine, même si on va retrouver Soutine de façon plus précise dans un instant. Mais voilà, que ce rapport à la matière, parce que être aquarelliste et en même temps travailler l'huile, c'est pas du tout le même travail.
Non. Voilà. Disons que l'aquarelle permet que l'inconscient s'exprime facilement. C'est-à-dire que c'est de l'eau et donc il y a une espèce de l'inconscient va naturellement vers l'aquarelle. Vers l'huile, elle est beaucoup plus résistante, surtout en pleine pâte. Mais moi, je me situe, disons, dans une école qui existe depuis Rembrandt, qui est des gens qui travaillent la matière elle-même. Alors, vous avez Soutine, mais après, on a De Kooning. Et puis, il y avait un grand peintre belge qui s'appelait Michel Frère, malheureusement, qui nous a quittés très jeune et qui est un immense peintre. Et je me situe dans ces peintres qui aiment travailler la matière en pleine pâte et donc retrouver de l'inconscient dans la matière, quoi. Quand on travaille à l'huile, il y a un moment assez curieux parce qu'on sort de la matière totalement inerte et vraiment qui fait un peu peur, surtout sur des masses comme ça. Et donc, il y a un côté alpiniste aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on rentre, le corps travaille beaucoup plus que dans la BD. Dans la BD, c'est une chose qui est assez... comme les moines copistes.
Quoi. Oui, c'est ça.
Là, il y a un côté un peu troglodyte. On travaille avec le corps. Quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a une espèce de corps qui travaille et une perte de l'image. Et surtout dans le jaune, alors là, on parle de peinture, c'est moins net, mais le jaune est une couleur à l'huile qui n'en supporte aucune autre. Quoi. C'est-à-dire que le jaune, une fois qu'il a été touché, il devient... ouvert. Et donc là, il faut poser sa couleur et après, il faut y aller. Voilà. Donc, alors, le tableau, pour c'est, en fait, c'est un châtaignier à l'automne en Ardèche. Quoi. Donc, une espèce d'envolée lyrique là-dedans que j'aime assez.
Ouais. Et comme vous parlez d'automne, voilà. Là, je pense que ça s'intitule l'automne.
Ça s'appelle automne à Tegelsee. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'ai habité pendant 10 ans à Berlin et il y avait des automnes particulièrement incendiaire, qui m'a... Alors, ce tableau est immense, hein, il fait 2,50 m par 2 mètres, je ne sais pas, il fait immense. Alors ça, c'était vraiment une guerre, hein, pour le coup. Quand j'étais dans mon atelier à Berlin, ça a été véritablement une guerre, et c'est une œuvre que... C'est la dernière. Après ça, j'ai arrêté de peindre, en fait. J'ai arrêté de peindre parce que j'ai eu des problèmes de... Parce que je travaillais dans un atelier, je dormais au milieu des œuvres et tout, et j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration, et donc j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Là-dessus. Donc c'est ma dernière œuvre. Enfin, je reviendrai peut-être, mais ça c'est la dernière que j'ai faite. Ça date de 2012, je crois.
Mais vous étiez à Berlin à ce moment-là.
Voilà. Ouais. Enfin, j'ai vécu 10 ans à Berlin parce que je voulais peindre. Je m'étais dit naïvement que c'était la ville de la peinture. Peut-être comme Soutine s'est dit que Paris était la ville de la peinture. Et ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs. Et voilà. Après, une fois que j'ai quitté Berlin, j'ai quitté ce genre de peinture-là.
Mais Soutine n'est pas loin.
Voilà, donc ça, j'ai toujours essayé de faire un bœuf écorché à ma façon, et ça, c'est celui que j'ai fait et qui ramène à l'enfant que j'étais et qui était fasciné par cette œuvre. Quoi.
Et ça, c'est une œuvre que vous avez aussi peinte à Berlin. L'essentiel de votre travail.
Pendant 10 ans, j'ai pratiquement plus fait de bande dessinée. Ce qui m'a relancé dans la bande dessinée, c'est en fait le succès du transpersonnage. Le fait que Bonjouro découvre cette bande dessinée à Séoul, alors que moi, en France, j'étais quand même un petit peu sorti du jeu. Là. Et puis, ça a relancé. Son film a eu du succès. Les gens ont racheté de la bande dessinée. Ça a donné envie à mon éditeur de demander de continuer de suite, et ainsi de suite. Et je suis rentré dans la bande dessinée par le succès du transpersonnage, par l'autre côté de la Terre, en fait, par le Bon Jongo, quoi, par un autre artiste. Et pendant ce temps-là, j'avais décidé que la bande dessinée, c'est fini pour moi, et donc je faisais autre chose. Voilà.
Ouais, tout à fait. Alors, vous avez publié un très joli volume d'entretien, de conversation plutôt, avec Fabrice Gabriel, très joliment écrit, qui s'appelle donc, ce titre... magnifique, manifeste pour peindre le bleu du ciel. Et à un moment donné, vous écrivez, enfin, en tout cas, Fabrice Gabriel rapporte vos propos, selon lesquels quelqu'un dans le monde de la bande dessinée vous a demandé d'un air malin, je cite, hein, s'il n'y avait pas un problème avec la couleur de vos ciels. Et dans le volume d'entretien, vous réagissez alors en disant « il n'avait rien compris ». Alors, expliquez-nous un peu. Enfin, en tout cas, ça m'a intriguée. Ça. D'abord, pourquoi, dans le monde de la bande dessinée, trouvait-on qu'il y avait un problème avec la couleur de vos ciels ?
Parce que les ciels des écrans de haute altitude, on appelle ça le ciel 05, en fait, c'est Hautes-Alpes, en fait, c'est 05.
D'accord.
Le ciel est particulièrement bleu. C'est-à-dire que par moments, il est presque effrayant.
Trop bleu.
Oui, il est trop bleu. Indéniablement trop bleu.
C'est pas le glauque.
Non, c'est un couvercle, c'est ce que j'ai dit. À la fois, c'est un ciel couvercle et un ciel porte. Aux fenêtres, plutôt. Donc on a l'impression qu'on peut... Mais il y a un côté enfermement. Bon, bref, je voulais que ce bleu extrêmement pesant apparaisse dans l'aile froide. C'est qu'il soit menaçant, que ce ne soit pas un ciel layette.
C'est ça.
Mais comme il n'est pas très connu, un dessinateur m'a dit qu'il doit avoir un problème de...
C'est le coloriste, quoi.
Il y a eu un problème au tirage. Et en fait, j'avais été chez Sennelier, j'avais cherché le bleu que je voulais en pastel pour faire cette espèce de bleu, ce bleu noir, en fait, ce bleu qui ferme la terre sous son couvercle, quoi. Et voilà, donc il n'avait pas compris mon intention.
D'accord, voilà. Donc il n'avait pas compris. Et alors, voilà, je voudrais terminer sur cette aquarelle absolument magnifique qui fait le lien finalement aussi avec votre travail d'auteur de bande dessinée, parce que dans Aile froide, on retrouve des images qui sont extrêmement proches. Et alors ce qui me frappe, justement dans le manifeste pour peindre le bleu du ciel, à un moment donné, vous parlez de votre désir de rendre compte de la chair du monde. Là, on est dans autre chose. Pourriez-vous un peu, voilà, peut-être m'expliquer ce que vous entendez par la chair du monde. Alors avec lui, évidemment, on perçoit ce que vous voulez dire. Mais voilà, et le lien que cette chair du monde peut avoir aussi avec le reste de votre travail.
Ben, j'ai une vision. Moi, j'habite en plein centre des Écrins. C'est un endroit qui est extrêmement minéral. C'est-à-dire il y a pratiquement pas de végétation. Il y a du ciel et il y a de la pierre, en fait. Et par moments, donc je vous dis, ce ciel est lourd, il représente la chair du monde, et par moments, le rocher est extrêmement léger. Il est gorgé de photons. Alors évidemment, le rocher est là, mais moi, je peux le regarder comme une espèce d'émanation de la lumière, quoi.
D'accord.
Et dans cette aquarelle que j'aime particulièrement, en fait, c'est le col de la Temple, et le rocher, le ciel, tout ça devient un peu...
Tout
se confond et va plus vers l'esprit que vers la matière. À ce moment-là, quoi. On parle de cette image-là. Mais bon, je vis dedans, je la vois tout le temps, et c'est vrai qu'il y a des moments d'une grâce dans ces montagnes. La montagne et la peinture, c'est des amis. Surtout en Chine.
Je veux dire,
les peintres chinois ne peuvent pas imaginer la peinture en dehors des nuages, et du ciel et du rocher, quoi. Et alors, est-ce que la terre du monde est aussi lourde qu'on le croit ? Peut-être pas. Voilà.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire en regardant cette aquarelle, c'est que j'ai l'impression qu'Athéna continue à crier. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Marc Cossette. C'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous.